Troisième partie. Mortel. Shallan, Kaladin, Adoline, Navani. Chapitre 35. Infusion simultanée et pression accrue.
Par ailleurs, lorsqu'ils se furent entendus quant à la nature de chacun des liens, ils baptisèrent celui-ci « lien de Naël », se référant à l'effet produit sur les âmes de ceux qui se trouvaient sous son emprise. Selon cette description, chacun était en relation avec les liens qui gouvernent Roshar lui-même, 10 flux, nommés à leur tour, 2 pour chaque ordre. Il apparaît sous cet angle que chacun des ordres devait nécessairement partager un flux avec l'un de ses voisins. Extrait du livre des Radieux, chapitre 8, page 6.
Adoline lança sa lame d'éclat. Manier ses armes ne consistait pas qu'à pratiquer les postures et à s'habituer à la trop grande légèreté des mouvements. Un maître de la lame apprenait à pousser ce lien plus loin. Il apprenait à ordonner à l'épée de rester en place lorsqu'il la lâchait, et à la rappeler depuis les mains de ceux qui l'auraient ramassée. Il apprenait que l'homme et l'épée, d'une certaine manière, ne faisaient qu'un. L'arme devenait un fragment de votre âme. Adoline avait appris à contrôler ainsi sa lame, en règle générale. Aujourd'hui, l'arme se désintégra presque aussitôt après avoir quitté ses doigts. La longue lame argentée se transforma en vapeur blanche, conservant sa forme un très bref instant comme un anneau de fumée, avant d'exploser dans un nuage de filaments blancs sinueux. Adoline gronda de frustration et fit les 100 pas sur le plateau, main tendue sur le côté, pour rappeler son arme. 10 battements de cœur. Parfois, ça semblait une éternité. Il portait sa cuirasse sans le casque, qui était posé sur une pierre, et ses cheveux flottaient librement sous la brise matinale. Il avait besoin de la cuirasse. Son épaule et son flanc gauche étaient une masse d'ecchymoses violettes. Sa tête lui faisait encore mal d'avoir heurté le sol pendant l'attaque de l'assassin la nuit dernière. Sans la cuirasse, il serait bien moins agile aujourd'hui. Par ailleurs, il avait besoin de sa force. Il regardait constamment par-dessus son épaule en s'attendant à y voir l'assassin. Il avait veillé toute la nuit, assis sur le sol devant la chambre de son père, vêtu de sa cuirasse, bras croisés sur les genoux, mâchant de l'écorce de schiste pour rester éveillé. On l'avait surpris une fois sans sa cuirasse. Ça ne se reproduirait pas. « Et que vas-tu faire ?» se demanda-t-il tandis que la lame réapparaissait. « La porter en permanence ?» La partie de lui qui posait ces questions-là était rationnelle, et il n'avait pas envie d'être rationnel en ce moment même. Il secoua sa lame pour en chasser la condensation, puis la fit tourner et la lança au loin, transmettant les ordres mentaux qui lui dicteraient de rester entière. Une fois de plus, la lame se transforma en brume quelques instants après avoir quitté ses doigts. Elle ne franchit même pas la moitié de la distance le séparant de la formation rocheuse qu'il visait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Des années plus tôt, il maîtrisait les commandes de la lame. D'accord, il ne s'était pas souvent entraîné à lancer son épée. Ces choses-là étaient interdites lors des duels. Et il n'avait même pas pensé qu'il aurait besoin d'utiliser cette manœuvre. C'était avant qu'il se retrouve coincé sur le plafond d'un couloir, incapable d'attaquer correctement un assassin. Adoline s'avança jusqu'au bord du plateau et regarda fixement l'étendue irrégulière des plaines brisées. Un petit groupe de 3 gardes le regardait non loin de là. Pitoyable. Que feraient 3 hommes de pont si l'assassin en blanc revenait ? Kaladin s'est montré valeureux au combat, se rappela-t-il, plus que toi. Cet homme s'était révélé d'une efficacité suspecte. Rénarine affirmait qu'Adoline était injuste vis-à-vis du capitaine des hommes de pont. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme-là. Bien au-delà de son attitude, la façon dont il donnait toujours l'impression de vous accorder une faveur quand il vous parlait. La façon dont il semblait constamment morose en toutes occasions, en colère contre le monde lui-même. Il était antipathique, tout simplement. Mais Adeline avait connu beaucoup de gens antipathiques. Kaladin était aussi étrange, d'une manière qu'Adeline ne parvenait pas à préciser. En tout cas, les hommes de Kaladin faisaient simplement leur devoir. Inutile de s'énerver contre eux. Il leur adressa donc un sourire. La lame d'éclat d'Adeline tomba de nouveau entre ses doigts, trop légère pour sa taille. Il avait toujours éprouvé une certaine force lorsqu'il la tenait. Jamais auparavant, Adeline ne s'était sentie impuissant lorsqu'il portait ses éclats. Même cerné par les Parchendi, même persuadé qu'il allait mourir, il éprouvait malgré tout de la puissance. Où était cette sensation à présent? Il pivota sur lui-même et jeta l'arme, se concentrant comme Zaël le lui avait appris des années auparavant, envoyant des instructions directes à la lame, en se représentant ce qu'il devait faire. L'arme resta entière, tournoyant sur elle-même, scintillant dans les airs. Elle se planta jusqu'à la poignée dans la formation rocheuse. Adeline laissa échapper le souffle qu'il retenait jusque-là. Enfin. Il renvoya sa lame, et elle se changea en brume, qui s'écoula comme une rivière minuscule du trou qu'elle laissait derrière elle. « Venez !» dit-il à ses gardes du corps, avant de reprendre son casque sur la pierre et de se diriger vers le camp de guerre tout proche. Comme l'on pouvait s'y attendre, c'était là que le bord du cratère qui formait le mur du camp de guerre était le plus usé, à l'est. Le camp s'était déployé comme se répand le contenu d'un œuf de tortue brisé, et, au fil des ans, il avait même commencé à progresser lentement sur les plateaux voisins. De cette niche de civilisation émergea une procession extrêmement curieuse. La congrégation d'ardents vêtus de robes psalmodiait à l'unisson, entourant des parches qui portaient de grands piquets très droits, comme des lances. Une pièce de soie chatoyait entre ces piquets, longue d'une bonne douzaine de mètres, et ondulait au vent, masquant la vue de quelque chose en son centre. Des spiricantes? Ils ne sortaient normalement pas en plein jour. « Attendez ici !» dit-il à ses gardes du corps avant de se ruer vers les ardents. Les trois hommes de pont obéirent. Si Kaladin s'était trouvé avec eux, il aurait insisté pour le suivre. Peut-être le comportement de ce garçon résultait-il de sa position étrange. Pourquoi le père d'Adeline avait-il placé un soldat sombreris en dehors de la structure de commandement? Adeline était tout à fait disposée à traiter les hommes avec respect et honneur, indépendamment de la couleur de leurs yeux. Mais le Tout-Puissant avait placé certains hommes en position d'autorité et d'autres en dessous d'eux. C'était l'ordre naturel des choses. Les parches qui portaient les piquets le regardèrent approcher, puis baissèrent les yeux à terre. Près d'eux, les ardents laissèrent passer Adeline, même s'il semblait mal à l'aise. Adeline était autorisée à voir les spiricantes, mais il était plus rare qu'ils leur rendent visite. À l'intérieur de la pièce temporaire au mur de soie, Adeline trouva Kadash, l'un des plus éminents parmi les ardents de Dalinar. Il était très grand et avait autrefois été soldat, comme en témoignaient ses cicatrices. Il s'entretenait avec des ardents aux robes rouges sang. Le terme de spiricante désignait à la fois les personnes qui pratiquaient cet art et les fabriaux qu'ils employaient. Kadash lui-même n'en était pas un. Il portait la robe grise ordinaire au lieu de la rouge, le crâne rasé, et son visage était agrémenté d'une barbe carrée. Il remarqua Adeline, hésita brièvement, puis baissa la tête en signe de respect. Comme tous les ardents, Kadash était techniquement un esclave. Les cinq spiricantes aussi. Chacun d'eux se tenait debout avec la paume droite sur la poitrine, dévoilant un fabrial scintillant sur le dos de la main. L'une des ardents darda un coup d'œil vers Adeline. Père des tempêtes. Ce regard n'était pas humain. Enfin plus maintenant. L'utilisation prolongée d'un spiricante avait transformé leurs yeux, qui scintillaient désormais comme des gemmes. La peau de cette femme s'était durcie jusqu'à évoquer la pierre, lisse et parcourue de fines crevasses, comme si elle était une statue vivante. Kadash rejoignit Adeline en hâtant le pas. Clarissime, lui dit-il, je ne savais pas que vous alliez venir superviser les opérations. Je ne suis pas venu superviser, répondit Adeline avec un coup d'œil gêné au spiricante. Je suis simplement surpris. En règle générale, ne faites-vous pas ça la nuit ?
Nous ne pouvons plus nous le permettre, votre clarté, expliqua Kadash. On exige trop de choses des spiricantes, des bâtiments, de la nourriture, faire disparaître les déchets. Afin de pouvoir nous y plier, nous allons devoir commencer à former de multiples ardents à l'utilisation de chacun des fabriaux, puis à les utiliser par roulement. Votre père a donné son approbation sur ce point dans la semaine.
Sa réponse lui attira des regards de plusieurs des ardents en robe rouge. Que pensait-il du fait que d'autres s'entraînent sur leurs fabriaux? Leurs expressions quasi surnaturelles étaient indéchiffrables.
« Je vois, » dit Adeline.
« Non, des bourrasques, nous nous reposons beaucoup sur ces engins-là. »
Tout le monde parlait des lames et des cuirasses d'éclat et de leurs avantages en temps de guerre. Mais en réalité, c'était ces étranges fabriaux et les céréales qu'ils produisaient qui avaient permis à cette guerre de progresser comme elle l'avait fait.
« Pouvons-nous reprendre votre clarté ?» demanda Kadash.
Adeline hocha la tête, et Kadash rejoignit les cinq et leur donna quelques ordres brefs. Il parlait d'une voix rapide et nerveuse. C'était étrange de voir Kadash ainsi, lui qui était généralement si placide et flegmatique. Les spiricantes produisaient cet effet sur tout le monde. Les cinq se mirent à psalmodier doucement, en harmonie avec le chant des ardents de l'extérieur. Les cinq s'avancèrent en rang, levèrent la main, et Adeline sentit la sueur perler sur son visage, soudain glacée par le vent qui parvenait à s'infiltrer au-delà des murs de soie. Au début, il n'y avait rien. Puis, apparut de la pierre. Adeline crut entrevoir brièvement de la brume en train de se solidifier, comme lors de l'apparition d'une lame d'éclat, tandis qu'un mur massif jaillissait du néant. Le vent soufflait vers l'intérieur, comme aspiré par la pierre en train de se matérialiser, ce qui fit claquer violemment l'étoffe qui s'agita et se tortilla dans les airs. Pourquoi le vent se retrouvait-il attiré vers l'intérieur? La pierre n'aurait-elle pas dû le repousser, au contraire? La grande barrière était contiguë à la pierre des deux côtés, ce qui fit gonfler les paravents de soie vers l'extérieur et les suréleva dans les airs.
« Il va nous falloir des piquets plus hauts, » marmonna Kadash à mi-voix.
Le mur de pierre possédait le même aspect utilitaire que les baraquements, mais c'était là une nouvelle forme. S'il était aplati du côté qui faisait face au camp, il était incliné de l'autre côté, dessinant une forme triangulaire. Adeline reconnut là quelque chose que son père construisait avec obstination depuis des mois.
« Un brise-vent, » commenta Adeline.
« C'est formidable, Kadash !»«
Oui, eh bien, votre père a semblé apprécier la proposition. S'il y en a quelques dizaines de semblables ici, les chantiers de construction pourront s'étendre à tout le plateau sans craindre les tempêtes majeures. »
Ce n'était pas totalement vrai. Il fallait toujours s'inquiéter des tempêtes majeures, car elles étaient capables de projeter des rochers et d'arracher des bâtiments de leurs fondations. Mais un brise-vent bien solide serait une bénédiction du Tout-Puissant, ici, dans les terres d'orage. Les spiricantes se retirèrent, sans parler aux autres ardents. Les parches s'efforçaient de suivre l'allure, et ceux qui se trouvaient d'un côté de la barrière couraient derrière elles en portant la pièce de soie dont ils ouvraient l'arrière pour laisser le nouveau brise-vent s'échapper de cet espace clos. Ils passèrent près d'Adeline et de Kadash, les laissant exposés sur le plateau, debout à l'ombre du grand édifice de pierre tout neuf. Le mur de soie se releva, masquant la vue des spiricantes. L'instant d'avant, Adeline remarqua les mains de l'un des spiricantes. L'éclat du fabrial avait disparu. Sans doute l'une des gemmes qu'elle contenait s'était-elle brisée, sinon plusieurs.
« Je continue à trouver ça incroyable », déclara Kadash en regardant la barrière de pierre. Même après toutes ces années, si nous avions besoin d'une preuve de la main du Tout-Puissant dans nos vies, La voici sans aucun doute. » Quelques sprènes de gloire dorée apparurent autour de lui en tourbillonnant. « Les radieux étaient capables de spiriganter, n'est-ce pas ?» demanda Adeline. « Il est écrit que oui, » répondit prudemment Kadash. « La félonie, le nom donné à la trahison de l'humanité par les radieux, a souvent été perçue comme un échec du vorinisme en tant que religion. La façon dont l'Église a cherché à s'emparer du pouvoir lors des siècles qui ont suivi était encore plus embarrassante. »
De quoi d'autre les radieux étaient-ils capables ? Demanda Adeline. Ils possédaient d'étranges pouvoirs, c'est bien ça ?
Je n'ai pas lu de manière approfondie sur le sujet, votre clarté, reconnut Kadash. Peut-être aurais-je dû y consacrer plus de temps, ne serait-ce que pour me rappeler les funestes conséquences de l'orgueil. Je m'assurerai de le faire, votre clarté, afin de demeurer fidèle et de me rappeler la place qui revient à tous les ardents.
Kadash, lui dit Adeline en regardant s'éloigner la procession de soie chatoyante. C'est d'informations que j'ai besoin actuellement, pas d'humilité. L'assassin en blanc est revenu. Kadash en eut le souffle coupé.
Les perturbations au palais la nuit dernière? Les rumeurs disent vrai?
Oui. Inutile de le cacher. Son père et le roi en avaient parlé au haut prince, et il réfléchissait à la façon dont divulguer l'information à tous les autres. Adeline soutint le regard de l'ardent.
Cet assassin marchait sur les murs, comme si l'attraction terrestre ne signifiait rien pour lui. Il est tombé de 30 mètres sans se blesser. Il était pareil à un néantifère, la mort incarnée. Donc, je vous repose la question. De quoi les radieux étaient-ils capables? Ce genre de pouvoir leur était-il attribué?
Cela ainsi que d'autres, votre clarté, murmura Kadash, le visage soudain exsangue.
J'ai parlé à plusieurs soldats qui ont survécu à cette première nuit affreuse où l'ancien roi a été tué. Je croyais que les choses qu'ils affirmaient avoir vues résultaient d'un traumatisme.
J'ai besoin de le savoir, insista Adeline. Renseignez-vous sur le sujet. Lisez. Dites-moi de quoi cette créature est peut-être capable. Nous devons découvrir comment le combattre. Il reviendra sûrement.
Entendu, répondit Kadash, visiblement secoué. Mais, Adeline, si ce que vous dites est exact, nom des bourrasques, ça pourrait signifier que les radieux ne sont pas morts.
Je sais.
Le Tout-Puissant nous protège, murmura Kadash.